Dimanche dernier, le Seigneur, dans sa parole, nous invitait à méditer sur le fait d'aimer. Et c'était un scribe qui posait la question à Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force. Et dans la continuité de ce dialogue, nous avons cette rencontre, même pas cette rencontre, c'est cette présence de Jésus dans le temple. Et quand Jésus est présent dans le temple, il est présent dans la maison de son Père. Quand Jésus est présent dans le temple, il veut rappeler que lui-même, il est ce temple. Et que en 3 jours, il sera relevé après avoir été détruit. Et donc, on imagine la scène, vous savez, quand on médite, il faut toujours imaginer les choses, voir comment est-ce que ça pouvait être, est-ce qu'il y avait du soleil ou pas, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde, est-ce qu'il y avait des enfants, est-ce que... On imagine la scène et on voit Jésus assis, en face, c'était assis, donc quelqu'un assis, il est dans une attitude d'enseignant. Il enseigne quelque chose. Et puis, qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne à regarder. Il enseigne à regarder, c'est-à-dire que dans ce temple, il y a la salle du trésor et on voit les gens qui, de façon ostentatoire, déposent leur offrande. Et il invite à regarder l'essentiel pour découvrir ce qu'est vraiment le temple, c'est-à-dire la présence de Dieu. Le temple, c'est ça pour le peuple juif, c'est cette présence de Dieu. Et il dit, au fond, qui a donné davantage? Est-ce celui qui a donné de son superflu ou est-ce cette pauvre veuve qui a mis 2,7 pièces? Comme si, d'une certaine manière, pour découvrir ce qu'est vraiment un temple, c'est-à-dire accéder à l'intimité avec le Seigneur, il y avait comme un prix à payer. On le voit dans la première lecture avec le prophète Élie, et c'est aussi cette pauvre veuve qui n'avait plus rien, et Élie lui dit « Cuisine-moi une galette de pain ». Alors qu'elle vient de dire ben, « Il me reste un peu de farine et de l'huile, et ensuite... nous cuisinerons ça et avec mon fils nous mourrons. Cuisine-moi une galette de pain. N'aie pas peur, il lui dit. » Je trouve que c'est pareil, c'est-à-dire que pour découvrir vraiment la présence du Seigneur, où est-ce qu'il se situe, et le temple c'est la présence du Seigneur, il y a comme une disproportion à vivre. Une disproportion à vivre entre ce que nous pouvons apporter, ce qui est prudent aux yeux des hommes et ce que le Seigneur veut donner. Et cette femme, en donnant de son nécessaire, à travers les 2,7 pièces, elle nous inspire aussi que découvrir Dieu, ça passe aussi par un acte de confiance et un lâcher-prise. Et je ne découvre vraiment ce qu'est la présence de Dieu en moi et autour de moi quand je me mets dans cette attitude de pauvreté intérieure, quand je me mets dans cette attitude d'offrande, de confiance. Mais quand je suis encore pour utiliser le temps pour asseoir mon pouvoir, et on le voit dans l'exemple que met Jésus à travers les pharisiens qui font des longues prières, les scribes exactement, en vêtements d'apparat, vous l'avez, ils voient le temple, ils utilisent le temple pour eux-mêmes. Ils ne savent pas ce qu'est vraiment la présence de Dieu. Parce que découvrir la présence de Dieu dans notre vie, ça nous appauvrit toujours. Ça nous appauvrit intérieurement. Ça fait qu'il y a des choses sur lesquelles on pouvait penser, compter, et puis finalement elles ne sont pas au rendez-vous. Mais dans cette pauvreté, dans cet appauvrissement, on découvre une présence. Et c'est ça le cœur de l'Évangile. Jésus nous invite à regarder. À regarder non pas comme les hommes, mais à regarder comme lui il regarde. Il assis, il est assis, il observe la scène. Nous aussi, nous sommes pour accéder au temple que nous sommes, il y a un prix à payer. Parce que, et c'est la grande nouveauté du christianisme, ce temple, il n'est pas fait. Hein, ce temple, c'est vous, dira saint Paul, hein, le temple de l'Esprit, c'est vous. Et ce temple, c'est vous. Hein, et de dire que maintenant, chaque personne, chaque baptisé, chaque personne qui vit de la présence de Dieu, eh bien, est temple du Seigneur, c'est le sens du baptême. Mais regardez comme les sacrements sont simples. Regardez comme les sacrements sont, je veux dire, très pauvres dans leur structure. Un peu d'eau, et c'est toute la vie éternelle qui rentre dans le cœur de l'enfant. Un peu de pain, un peu de vin, et c'est Dieu lui-même qui est présent sur l'autel. Comme si cette pédagogie du Christ à travers la veuve et avec les piécettes, c'est quelque chose qui, dans l'Évangile, vient jusqu'à nous à travers les sacrements. Nous nous découvrirons au temple, nous découvrirons la présence du Seigneur en nous, à la condition que nous rentrions dans une attitude d'humilité et de simplicité intérieure, de lâcher prise, de confiance. Alors, c'est pas si simple, parce que, je l'ai dit, toute notre vie, on nous a appris le contraire. Et l'éducation, une bonne éducation, il faut que tu sois autonome, il faut que tu sois indépendant, il faut que... Et notre société rajoute là-dessus. Hein, on est beaucoup dans le contrôle, dans le principe de précaution, dans le risque zéro, etc. Et c'est là où la logique du monde et la logique de l'Évangile sont complètement différentes. La logique de l'Évangile, c'est vraiment... celui qui perd, eh bien, il gagne. Mais celui qui pense gagner aux yeux du monde, eh bien, celui-là, il perd. Alors, pour nous, ça nous invite à une vraie réflexion. Où est-ce qu'on en est de notre vie contemplative? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est quoi la vie contemplative? C'est notre manière de regarder. Est-ce qu'on a un regard qui touche au cœur et non pas à l'apparence? Parce que Dieu juge les cœurs et non pas selon le regard des hommes. Est-ce que notre vie contemplative, qui est ce chemin du regard, nous conduit aussi à accueillir les appauvrissements que nous avons, qui sont multiples, dans nos santé par exemple, dans une contrariété, dans parfois des difficultés, des temps de chômage, voilà, des difficultés relationnelles qui nous rendent pauvres. Au fond, on aimerait plus de communion et finalement ce n'est pas ça qui est au rendez-vous. Est-ce que ces appauvrissements que le Seigneur nous propose nous font découvrir sa présence? C'est là où il y a un enjeu. Ça nous fait découvrir sa présence, ça nous fait découvrir en nous-mêmes que nous portons plus grand que nous-mêmes. Mais c'est justement ça la définition du chrétien. C'est celui qui porte en lui-même plus grand que lui-même. Mais parce qu'il porte en lui-même plus grand que lui-même, il est invité à rentrer par la porte des pauvres, par la béatitude des pauvres, qui est la première parce qu'elle les résume toutes, les béatitudes. D'une manière ou d'une autre, nous avons à nous laisser appauvrir jusqu'au moment ultime de notre mort, hein, où ce sera ce grand lâcher-prise, cette grande offrande de nous-mêmes à laquelle nous nous préparons à chaque fois que nous accueillons un dépouillement. Alors je trouve c'est intéressant cette parole du Seigneur qui nous invite à recentrer sur l'essentiel, toujours. Nous invite à dire qu'est-ce qui compte vraiment, qui nous invite à la confiance comme Élie avec la veuve et sa jarre de farine et son vase d'huile. Il nous invite à ça. Et ça, on voit bien que dans nos sociétés occidentales essentiellement, c'est quelque chose qui ne nous est pas familier. Parce que c'est quelque chose qui ne nous est pas enseigné, au contraire. Alors il y a un retournement à faire en nous. Il y a ce qu'on appelle la métanoïa en grec, c'est-à-dire un retournement, une conversion du cœur. Découvrir qu'on est temple, c'est découvrir qu'on est appelé à donner et à tout donner. Découvrir qu'on est temple, c'est renoncer au pouvoir. C'est ce que le pape François appelle de ses voeux lorsqu'il demande que l'on mette de côté le cléricalisme. C'est quoi le cléricalisme? C'est le sacerdoce qui est signe de pouvoir et qui montre le pouvoir. Eh bien justement, non. Le sacerdoce, à la manière de Jésus, appauvrit le prêtre. Le met dans une situation de vulnérabilité, de fragilité, d'offrande, comme l'hostie qu'il consacre et qu'il donne aux fidèles en communion. Oui, frères et sœurs bien-aimés, je trouve que c'est une belle parole qui nous est donnée pour notre semaine, pour demander, en ce jour du 11 novembre, de prier pour tous les défunts de la Grande Guerre, demander que cette paix, c'est... La paix, c'est pas simplement un... C'est bien des traités d'armistice, mais on sait bien que c'est pas... Ils sont pas gravés dans le marbre, hein, l'histoire nous le rappelle. Cette paix, elle vient justement du fait que je n'ai plus de pouvoir à défendre. Je suis dans une attitude de simplicité et en même temps de profonde confiance et de profonde sécurité dans la présence du Seigneur. Alors on va demander ça les uns pour les autres, là où nous en sommes, là où nous sommes de notre vie spirituelle. Demandons à Jésus qu'il nous donne de répondre à son appel pour que nous puissions être les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière.